Et bonjour à tous. Après l'attaque mortelle de la préfecture de police à Paris, 8 policiers ont été désarmés, une dizaine ont été suspendus, mais certains se disent victimes de discrimination. Et cette situation crée un malaise au sein de la police. C'est ce qu'on va voir avec votre enquête. Élodie Guéguin et Emmanuel Leclerc, bonjour.
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 Et puis nous recevrons Laurent Léger du magazine L'Express, bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez révélé cette semaine qu'un nouveau nuage s'abat sur Carlos Ghosn. Un audit s'interroge sur 38 vols en jet qui auraient été payés par Renault-Nissan et dont l'objet professionnel ne serait pas démontré.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Cela commence par vous, forces de l'ordre. Je sais combien vous saurez vous engager pour repérer ces petits riens qui deviennent de grandes tragédies.
Voilà, ça c'était Emmanuel Macron le 8 octobre 2019, soit 5 jours après l'attaque au couteau qui a fait 4 morts à la préfecture de police de Paris. Un agent, Michael Harpon, a tué ses collègues. Alors il n'est pas établi hein, pour l'instant qu'il l'ait fait pour le compte de Daesh. Mais Emmanuel Leclerc, il y aura tout de même un avant et un après parce que cette attaque, elle a créé un véritable séisme au sein de la police.
Oui, car les policiers ont alors réalisé que la menace pouvait venir de l'intérieur même de leur service. Et ça a été un choc, explique Christophe Rouget, porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Au lendemain de cette attaque, il y a eu une période où tout le monde était inquiet. Nous sommes dans un domaine particulier où nous avons une arme et nous travaillons ensemble. Et nous avons besoin de savoir que la personne qui est derrière nous est armée est une personne de confiance. Donc effectivement, il y avait une inquiétude.
Oui, inquiétude parce qu'on se dit qu'un collègue, ça peut aussi être un ennemi. Et du coup, le préfet de police, Didier Lallement, a pris les choses en main.
Oui, 4 jours après l'attentat, il demande dans une note à l'ensemble de ses services de la préfecture d'encourager la remontée des signalements, c'est-à-dire le moindre soupçon de radicalisation islamiste dans la police. Et depuis le 3 octobre, ils sont assez nombreux, selon Michel Lavaux, le porte-parole de la police nationale.
Il y a eu une augmentation sensible de ces signalements à la suite de la tuerie de l'APP. Et nous sommes à l'heure actuelle sur un volant d'une centaine de cas qui sont étudiés et dans le cadre du groupe d'évaluation centrale piloté par l'IGPN.
L'IGPN, la police des polices. Alors, pour être très précis, Jacques, en fin de semaine dernière, 106 dossiers étaient en cours de traitement, selon nos informations. Il y a eu au total 74 cas signalés pour des soupçons de radicalisation pour la seule préfecture de police de Paris depuis le début du mois d'octobre, dont 27 ont déjà été clôturés.
Clôturés, c'est-à-dire ?
Eh bien, cela veut dire classés sans suite.
Mais comment on les mène, ces enquêtes ?
Eh bien, on fait des vérifications sur l'entourage des agents. On cherche, comme pour n'importe quel dossier de suspicion de radicalisation, des liens familiaux qui pourraient poser problème, et surtout quelle association, quelle mosquée les agents fréquentent. Quels sont les imams qui les dirigent? Est-ce qu'ils sont connus ou non des services de renseignement?
Et ces enquêtes, alors, elles ont débouché sur quoi?
Pour l'instant, on ne le sait pas vraiment parce qu'elles sont en cours, mais sans attendre leur conclusion, la préfecture de police a désarmé 8 policiers et une dizaine au total ont été suspendus.
Ouais, c'est ce qu'on appelle des mesures préventive, hein, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a effectivement eu dans le passé des cas de radicalisation dans la police.
Oui, il y a eu notamment Mamadou Ndiaye, un policier de 47 ans qui était en poste au Kremlin Bicêtre près de Paris. Le tribunal l'a condamné en juillet dernier à 6 ans de prison pour avoir apporté son soutien à son frère qui était impliqué dans une filière djihadiste. La justice a estimé que ce policier adhérait aux thèses de Daesh.
Et des cas de ce type, il y en a eu d'autres ?
Oui, on ne l'a jamais dit, mais en Seine-Saint-Denis, un agent chargé de l'accueil dans un commissariat a lui aussi fait l'objet de soupçons. Il fait partie, selon nos informations, de l'entourage d'un terroriste. Et lorsque ça s'est su, ça a créé un malaise. Il y a 3 ans, l'agent s'est mis en arrêt maladie, comme nous le raconte un commissaire qui était présent dans le département à cette époque. Il a souhaité garder l'anonymat. Nous avons donc fait lire ses propos.
Le fait qu'il se soit mis en arrêt maladie nous a en fait vraiment arrangé. C'était très compliqué. Tout le monde était au courant de son lien familial dans le commissariat. Ce serait vite devenu ingérable. C'est un agent qui posait plusieurs problèmes. Il refusait d'être dans un bureau avec des femmes. Il demandait à se retirer pendant 1 heure pour faire sa prière. On a su très vite qu'il fréquentait 2 mosquées très rigoristes du département. Un jour, alors qu'il était à l'accueil, il n'aurait pas fait remonter, comme il aurait fallu, un signalement sur un possible départ en Syrie.
Et aujourd'hui alors, il est toujours en arrêt maladie cet agent ?
Oui, et sous la surveillance des services de renseignement. Il risque une révocation très prochainement.
Donc des soupçons étayés, sérieux en tout cas de radicalisation. Il en a existé dans le passé, maintenant je me tourne vers vous, Élodie Guéguin. Parce que depuis le 3 octobre, il semble tout de même que de vieux dossiers qu'on règle dans l'urgence, il y en ait de plus en plus.
Effectivement, par exemple Jacques, il y a une policière qui a été suspendue juste après la tuerie de la préfecture. On lui reproche d'avoir partagé sur sa page Facebook des posts pro-palestiniens, mais c'était en 2014. À l'époque, elle avait écopé d'un rappel à la loi après avoir été dénoncée de manière anonyme par des collègues. Son supérieur avait même trouvé des captures d'écran de son compte Facebook glissé sous sa porte.
Ah oui, donc ses collègues la dénoncent car elle soutient la cause palestinienne et on la suspend 5 ans après ?
Alors pour être tout à fait précise, elle est en arrêt maladie depuis longtemps car on lui aurait demandé de reprendre son poste au sein du même service, avec donc les mêmes collègues qui l'ont dénoncé. C'est ce que nous raconte Noah Manoir, du syndicat Vigipolis. Cet ancien agent de la direction du renseignement à Paris connaît bien cette brigadière.
On lui a pas proposé de réaffectation, donc elle a été maintenue dans ce commissariat. Elle a eu beaucoup de mal à y retourner, puis le jour où elle aurait dû y retourner, justement, il lui a été notifié, donc début novembre dernier, sa suspension immédiate, avec son désarmement, etc. Et donc dans des conditions, je dirais, qui m'ont paru un petit peu suspectes. Comme si c'était, vous voyez, le clone de Mohamed Merah, quoi, en gros.
Oui, mais ça ne s'arrête pas là pour cette affaire de post Facebook qui date donc de 2014. Cette brigadière va passer en conseil de discipline dans quelques jours, le 5 février, et elle risque la révocation.
Oui, donc on règle aujourd'hui des affaires qui semblent dater un peu. Maintenant, il semble aussi qu'on prenne parfois des décisions sur la base de dossiers, disons, assez légers.
Oui, alors on s'est particulièrement intéressé au cas d'un officier de police, un gradé, un capitaine. Il dirige un groupe de la brigade d'exécution des décisions de justice, une brigade qui enquête et qui suit les personnes condamnées. Ce policier, il gère 2 fichiers, celui des auteurs d'infractions sexuelles et celui des personnes condamnées pour terrorisme. Nous avons eu accès à ces évaluations professionnelles depuis 2011. Elles sont chaque année extrêmement élogieuses.
Bah alors où est le problème ?
Eh bien le problème, semble-t-il, c'est que cet officier est musulman, converti et pratiquant depuis plusieurs années.
Et alors ?
Eh bien pour certains de ses collègues, cela ne serait pas compatible avec le fait de gérer le fichier des personnes condamnées pour terrorisme. En 2011, l'administration avait déjà enquêté sur lui, mais elle avait classé le dossier.
Donc à l'époque, on en reste là. Sauf que l'attaque de la préfecture de police va le mettre à nouveau en difficulté.
Oui, parce que des policiers de sa brigade vont exprimer leurs craintes à leur hiérarchie, certains évoquant le fait qu'il ne ferait pas la bise aux femmes, d'autres affirmant qu'il devait prier dans son bureau. Certains de ses fonctionnaires menacent même d'exercer leur droit de retrait si ce policier musulman n'est pas suspendu. Écoutez ce qu'en pense son avocat, Maître Anas Kafif.
Mon client lui reprochait ou on lui reprocherait de ne pas faire la bise à certaines femmes. Si d'aucuns n'avaient pas la même confession de mon client, on supposerait que c'est tout simplement qu'on est un peu distant. Mais non, dans le cas de mon client, ça révèle quelque chose. Mon client ferme son bureau, par exemple. Il doit forcément prier, mais personne n'est là pour le voir. On suppose donc par définition le pire.
Donc son avocat dénonce un mauvais procès, Élodie. Mais on a quand même besoin de savoir, il refuse vraiment de faire la bise aux femmes, ce fonctionnaire ?
Eh bien en fait, apparemment non. En tout cas, nous avons eu accès à 7 attestations sur l'honneur de certains de ses collègues qui ont partagé son bureau, qui disent ne l'avoir jamais vu prier ou parler de religion. Et beaucoup de femmes parmi ses témoins jurent qu'il leur faisait la bise lorsqu'il les croisait.
Et sa hiérarchie, elle en dit quoi ?
Eh bien le patron de sa brigade a écrit un rapport de 3 pages au préfet de police, dans lequel il explique comprendre les inquiétudes de ses troupes, mais dans le même temps, il soutient que rien ne permet de dire que ce chef de groupe soit radicalisé. Écoutez ce qu'écrit précisément ce commissaire divisionnaire.
Monsieur adopte une conduite religieuse en accord avec sa personnalité et sa manière de servir, c'est-à-dire assez rigide et sans concession, sans pour autant trahir un quelconque extrémisme ou une radicalisation en cours. La dynamique observée étant plutôt inverse. Aucun des témoignages recueillis ne fait état d'une potentielle dangerosité.
Ouais, donc pour ce commissaire divisionnaire, il n'y a pas dans son comportement quoi que ce soit de préoccupant.
Oui, Jacques, sauf que le préfet Didier Lallement et la direction de la police nationale ont quand même pris des mesures radicales.
C'est-à-dire ?
Eh bien, lorsque ce chef de groupe est arrivé au travail, quelques jours après l'attaque à la préfecture, on lui a coupé l'accès aux fichiers des personnes condamnées pour terrorisme, ce qui est en fait son outil de travail, puis on l'a désarmé au vu et au su de tout son service, comme le raconte encore son avocat.
Peut-être qu'on ne mesure pas en tant qu'individu lambda ce que signifie le désarmement, mais pour un fonctionnaire de police en qualité de chef de groupe, être désarmé, c'est être humilié. Et pas seulement de façon dans un petit bureau, c'est devant tout le monde qu'on est humilié.
Et enfin, le 28 octobre, le ministère de l'Intérieur lui a signifié qu'il était suspendu de ses fonctions.
Et lui, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça ?
Eh bien, pour ce capitaine, la décision de son administration est injuste et infondée. Il a donc saisi le tribunal administratif de Paris. Une première audience en référé a eu lieu le 20 décembre. Nous y avons assisté.
Et alors, qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette audience ?
Eh bien, la directrice des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur a expliqué pourquoi la suspension de ce policier devait être maintenue en se basant sur sa conversion à l'islam lorsqu'il était marié à une femme musulmane et sur son rapport à la religion. Nous avons retranscrit mot pour mot des extraits de sa plaidoirie.
Les pratiques qui avaient été rapportées en 2012 au sujet de Monsieur sont aujourd'hui des signaux faibles qui peuvent signer une radicalisation, comme le fait d'être particulièrement observant dans la prière. Le préfet a pris des mesures conservatoires, le temps de voir. On ne va pas attendre que, pendant l'enquête, il continue à être armé, il continue à avoir accès à des données sensibles et qu'on se réveille au bout d'un matin en se disant « Ah ben c'est trop tard, il est passé à l'acte ».
Ah oui, donc être pieux, observant dans la prière, hein, comme on vient de l'entendre, ça suffit pour désarmer un policier.
Eh bien, en tout cas, pour la juriste du ministère de l'Intérieur, oui, semble-t-il, et elle va même encore plus loin, Jacques. Écoutez.
En octobre 2019, il y a eu cet attentat à la préfecture, commis par une personne qui, finalement, avait à peu près le même profil que Monsieur.
Oui, vous l'entendez en public, le ministère compare le profil de cet officier à celui de Michael Harpon, l'auteur de la tuerie de la préfecture, ce qui fait bondir l'avocat du capitaine, maître Anas Kafif, car leur seul point commun, dit-il, c'est d'être musulman.
La seule similitude qui existe entre les deux profils, c'est leur conversion à l'islam. Point. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est terrible lorsque vous êtes en charge, en qualité de capitaine de police, du suivi de l'ensemble des personnes condamnées à Paris pour des faits de terrorisme, d'être comparé sans procès, sans fait, sans élément, à quelqu'un qui a commis un acte qui pourrait être un acte terroriste.
Mais c'est vrai, ça, Élodie, il n'y a vraiment aucun élément dans ce dossier ?
Eh bien, c'est toute la difficulté de cette affaire. Hein. Faute de charges suffisantes, apparemment, contre ce capitaine, le ministère a brandi un argument qui est presque impossible à contrer. Ce policier, a-t-il dit, adopterait peut-être la taquilla.
La taquilla, c'est-à-dire ?
Eh bien, la taquilla, c'est l'art de la dissimulation utilisée par certains terroristes islamistes. Il s'agit de cacher sa radicalisation violente pour ne pas attirer les soupçons. Et c'était tout l'argumentaire développé par le ministère lors de cette audience dont nous avons fait lire, là encore, un extrait.
Le préfet et le ministre étaient fondés à écarter l'intéressé du service afin de déterminer si le fait qu'il ne soit plus dans une religion exacerbée n'est pas en fait une manœuvre de dissimulation qui pouvait se terminer par un risque comme ce qu'on a subi au mois d'octobre.
Oui, vous l'entendez, hein, selon le ministère de l'Intérieur, derrière l'officier de police pratiquant se cacherait donc peut-être un terroriste.
Bon, et le tribunal, lui, au final, alors, il a décidé quoi ?
Eh bien, il a donné gain de cause au ministère. Il a validé la suspension du policier tout en rendant une ordonnance plutôt atypique, Jacques. Mmh. Le juge des référés semble baser sa décision non pas uniquement sur des éléments de droit, mais aussi sur l'émotion du moment, le contexte de l'attentat. Écoutez un extrait de cette décision.
Compte tenu de l'écho médiatique provoqué par l'attentat du 3 octobre et de l'émotion légitime ressentie par les personnels, le préfet de police était fondé à prendre des mesures envers des agents présentant des indices de vulnérabilité, même faibles, de radicalisation, qui serait de nature à faire naître des craintes chez leurs collègues de travail.
Ouais, donc si je traduis, il faut répondre à la pression médiatique et aux inquiétudes de ses collègues.
C'est ça. En attendant, le policier, il a formé un pourvoi devant le Conseil d'État. Il a également saisi le défenseur des droits.
Donc l'affaire n'est pas terminée. Et le préfet de police de Paris, lui, comment il justifie cette décision?
Eh bien, Didier Lallemand assume, semble-t-il. Il n'a pas voulu répondre à nos questions, mais selon nos informations, lors d'une réunion qui s'est tenue après l'attaque à la préfecture, il aurait lâché cette phrase devant des représentants syndicaux. « Je préfère l'injustice au drame et j'assumerai si un fonctionnaire devait être injustement sanctionné. » C'est en substance ce que nous dit aussi le porte-parole de la police nationale, Michel Lavaux.
La suspension que vous évoquiez, ce sont des mesures conservatoires. C'est juste une mesure qui permet de, comme on dit en termes policiers, de figer la situation. On fige la situation pour se donner la peine d'évaluer ensuite cette situation. Mais ce n'est pas une mesure ou en tout cas un indice de culpabilité.
Donc on justifie ces mesures par leur côté préventif. Maintenant, dans ce contexte, Élodie, on assiste aussi parfois à des dénonciations assez étonnantes.
Oui, des signalements qui peuvent s'apparenter à de la calomnie ou à des règlements de compte. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, dans l'une des directions nationales de la police judiciaire, un agent est venu faire un signalement parce qu'un de ses collègues trompait sa femme avec une musulmane.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu que des mesures de suspension préventive ont été prises contre des policiers et que certaines d'entre elles posent question, eh bien voyons, Élodie Guéguin, ce qu'on entend par signaux faibles de radicalisation, parce que tout ce qu'on a entendu jusqu'ici montre quand même que c'est très difficile à définir.
Effectivement, et face à cela, les fonctionnaires que nous avons rencontrés semblent assez démunis. Écoutez ce qu'en dit Christophe Rouget, le porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Des fiches et des éléments ont été communiqués au chef de service pour expliquer ce que pouvait être la radicalisation. Mais il faut être honnête, aujourd'hui, personne ne sait très bien ce que c'est un individu radicalisé, et notamment un individu radicalisé dangereux. Donc c'est très compliqué. Et le risque, justement, c'est d'interpréter des signes religieux comme des signes de radicalisation et de jeter l'opprobre sur des personnes qui, finalement, ne font que pratiquer leur religion.
Ouais, donc on va rappeler quelques évidences, Élodie. Le fait d'être converti à l'islam, ce n'est pas en soi un signe de radicalisation.
En soi, non. Exercer sa religion dans la sphère privée est un droit. Écoutez à nouveau Michel Lavaux, lui-même le reconnaît et il nous précise quels sont les critères retenus par le groupe qui évalue en ce moment les profils à risque dans la police.
Dans les éléments, dans les critères que nous mettons en avant, nous faisons bien attention à avoir ces trois approches. Il faut des changements de comportement, il faut un attachement très étroit à une idéologie violente. Voilà. Par exemple, le fait de se réjouir de scènes que tout le monde peut imaginer commises lors d'attentats en France, à l'étranger, on a immédiatement conscience qu'on est loin d'une pratique religieuse, mais qu'on est plus dans une dérive radicale.
Une dérive radicale, mais en même temps, tout le monde n'a pas la même appréciation de ces critères.
Oui, écoutez par exemple ce que disait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors de son audition au Sénat sur les éventuels dysfonctionnements au sein du service où travaillait Michaël Harpon. Lui pense qu'il existe d'autres signaux faibles qu'il faut aussi prendre en compte.
Il se trouve que dans ce service, quand on organisait un pot, tout le monde était invité et on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas de porc parce que le fait qu'un des membres du service soit musulman était connu et donc on respectait cela. S'il y avait eu cette information, plus une autre, et peut-être que l'enquête pourra montrer qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient caractériser la radicalisation, à ce moment-là, nous aurions peut-être pu éviter ce qui s'est passé.
Ouais, donc lui pense que l'absence de porc lors d'un pot, ça peut poser problème s'il s'ajoute à d'autres signes.
Oui, c'est effectivement son analyse, mais là-dessus, il y a débat. Pour le spécialiste du renseignement Florent Vadillot, l'ancien conseiller spécial du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, eh bien Christophe Castaner fait fausse route.
Ce que veut dire Christophe Castaner, c'est que des pratiques religieuses et des interdits alimentaires fonde une autorisation à participer ou pas dans un service de renseignement. Donc, quelque part, le ministre dit aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui sont musulmans qu'ils représentent un danger et que potentiellement ils ne sont pas à leur place. Je trouve l'amalgame extrêmement gênant.
Et pour certains spécialistes, le risque, c'est qu'au nom de la lutte contre la radicalisation, on scrute les moindres faits et gestes des policiers pratiquants. C'est ce que redoute par exemple Noah Manoir du syndicat de police Vigie.
À partir du moment où on va mener des investigations dans la vie privée des gens pour savoir s'ils sont de telle ou telle confession, pour moi, c'est la ligne rouge justement qui est franchie. C'est-à-dire que, effectivement, les gens n'ont pas affirmé la moindre sensibilité justement politico-religieuse dans le cadre de leur fonction. Mais à partir du moment où on va les chercher dans leur vie privée en mettant des fonctionnaires sur écoute, en essayant de savoir si les fonctionnaires avaient tendance à demander des jours de congé quand c'était l'Aïd ou quand c'était vendredi, vous voyez, je pense qu'on viole le principe d'égalité. Parce qu'un fonctionnaire breton, athée, qui demande un jour de congé le vendredi, on ne va pas le soupçonner. Mais s'il est musulman et qu'il s'appelle Mohamed, ou en tout cas supposé musulman, on va en faire un critère de radicalisation.
Ouais, donc il y a bien débat sur ce que pourraient être ces signaux faibles de radicalisation. Et tout ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, au final, et là je me retourne à nouveau vers vous, Emmanuel Leclerc, ça crée un gros malaise dans la police.
Oui, depuis le 3 octobre, le quotidien de certains policiers a changé. Il y en a qui se sentent montrés du doigt, épiés, au point qu'ils doivent souvent se justifier. C'est ce que nous a raconté Sofiane Achatib, qui est responsable du pôle juridique du syndicat UNSA Police.
J'ai beaucoup de collègues qui me font remonter certaines anecdotes. Un collègue d'origine maghrébine, hein, qui a l'habitude de boire de l'alcool, qui me dit à un pot, je ne bois pas d'alcool, parce que, en l'occurrence, il était victime d'une crise de foi. Mais j'étais obligé de me justifier pourquoi je ne buvais pas d'alcool. Sinon, on va me dire que je me suis radicalisé. Un autre qui me dit, pour la bise, qui était vraiment malade, qui me dit, je fais pas la bise, mais parce que vraiment, je suis malade, hein, tiens, mon certificat médical. On est dans ce type, effectivement, de justification obligée.
Et selon Sofiane Achatib, ce climat délétère engendre un mal-être très profond chez certains policiers.
On a affaire à des êtres humains, avec tout ce que ça renvoie sur la sensibilité à un être humain. Et effectivement, ils vivent trauma, très mal. Certains sont en arrêt maladie, beaucoup sont en arrêt maladie, prennent des calmants, parce qu'effectivement... Être suspecté de tel type de comportement, ça engendre vraiment des désastres.
Des désastres, et qu'est-ce qu'il entend par désastre ?
Eh bien, il y a des arrêts maladie, comme on vient de le dire, mais aussi des démissions de policiers musulmans et ou d'origine maghrébine. La direction générale de la police, d'ailleurs, le reconnaît, même si son porte-parole, Michel Laveau, relativise.
Moi, j'ai noté dans certains dossiers le fait que ce sont les policiers, certains policiers, se mettent en congé ou s'éloignent volontairement du service. Nous avons même des cas d'abandon de poste. Parce qu'ils ont le sentiment que, d'une part, leurs convictions ne sont pas en adéquation avec nos valeurs et qu'ensuite, le fait d'être policier va les conduire à faire l'objet d'enquêtes très, très serrées. J'ai noté aussi un certain nombre de démissions volontaires. Comme si vous voulez, les policiers s'éloignaient de l'institution police, alors qu'ils sont en train, peut-être, je parle sous réserve de certaines enquêtes, mais alors qu'ils sont en train de se radicaliser. Mais ils démissionnent ou ils abandonnent leur poste.
Et pour ceux qui n'ont pas démissionné, mais qui sont dans le collimateur, qu'est-ce qui va se passer pour eux, Emmanuel ?
Eh bien, l'administration va devoir prendre des décisions rapidement, parce que les suspensions et les retraits d'armes ne peuvent pas excéder 4 mois.
Et quel type de décision ils peuvent prendre ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Certains passeront au conseil de discipline. D'autres comparaîtront devant une nouvelle commission qui a été créée pour ce type de situation. Elle devrait se réunir pour la première fois dans quelques semaines. Et puis, il y aura des policiers qui seront blanchis et donc réintégrés. Mais là, ça posera d'autres problèmes, estime le syndicaliste Christophe Rouget.
Il est difficile pour un collègue policier de revenir dans un service alors que ses collaborateurs ont une suspicion sur lui et se disent demain, est-ce qu'il sera toujours dangereux ? D'autant plus qu'il a été stigmatisé par l'institution. Donc vous voyez, on est dans une situation qui est vraiment très délicate, humainement, à gérer pour la police nationale.
Donc ça laissera des traces ?
Ah oui, et au-delà du ressenti des personnes concernées, le fait qu'on ait jeté la suspicion sur des policiers musulmans inquiète aussi certains spécialistes du renseignement, comme l'ancien conseiller ministériel Florent Vadillo. Lui redoute que ce qui se passe aujourd'hui n'affaiblisse à terme la police.
Vous avez besoin de policiers qui comprennent l'islam, qui comprennent un certain type de population qui pratique l'islam, tes services estiment qu'ils n'ont pas assez de profils de policiers issus de certaines zones géographiques, de certains quartiers, de certaines confessions. Et donc, je pense que les services de renseignement sont au contraire à la recherche de profils comme cela.
Ouais, donc lui s'inquiète des conséquences que ça pourrait avoir à long terme. Maintenant, il semble tout de même, Emmanuel, que les choses sont en train de se calmer, non ?
Oui, parce qu'on observe le même phénomène qu'en 2015, après les attentats. Il y avait eu un pic de signalement qui était retombé peu après. Aujourd'hui, c'est effectivement la même chose. J'ajoute que selon nos informations, aucune des enquêtes administratives lancées après le 3 octobre n'a pu établir à ce stade qu'il existe dans la police des cas de radicalisation violente.
Ouais, ce qui est intéressant de préciser. Merci Emmanuel Leclerc, merci Élodie Guéguin. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y faire part de vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Carlos Ghosn a-t-il utilisé des avions payés par Renault-Nissan pour se rendre sur des lieux de vacances ? On en parle dans quelques instants.
It's a death defying act you won't believe. Oh, it's a lost in mind for the newborn seeker.
Ça rappelle un peu les Doors, c'est monotonal et incarné en même temps. C'était Lost Day du groupe américain Other Lies, dont le nouvel album est attendu pour avril prochain.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Laurent Léger, bonjour.
Bonjour.
Cette semaine dans l'Express, vous avez révélé que l'affaire Carlos Ghosn s'est alourdie d'un nouvel élément. Alors on savait déjà qu'un audit avait conclu que 11 millions réglés par une filiale néerlandaise de Renault-Nissan posaient question. Mais ce que vous nous apprenez, c'est que dans ces dépenses, dans ces 11 millions, bah, il y aurait 38 vols en jet privé dont on se demande s'ils n'auraient pas été utilisés à des fins privées. Alors pour bien comprendre, on va peut-être prendre les choses dans l'ordre. D'abord, on va rappeler en deux mots ce que c'est que cette filiale néerlandaise de Renault-Nissan.
Alors, en réalité, c'est presque une structure qui chapeaute. Oui, on peut dire ça, c'est la structure qui chapeaute l'alliance des deux constructeurs, Renault et Nissan. et qui est chargé de gérer de la logistique entre les deux groupes. Et cette société est installée à Amsterdam, aux Pays-Bas.
Alors, cette société, c'est RNBV ?
RNBV, voilà.
Donc, cette société, elle a fait l'objet d'un audit par un cabinet qui s'appelle le cabinet Mazars. Alors là aussi, en deux mots, le cabinet Mazars, c'est quoi ?
Alors, Mazars, c'est un grand cabinet d'auditeurs international. Ce cabinet, donc, a été choisi à la fois par Renault et par Nissan pour auditer, vérifier les comptes de RNBV, pour vérifier les doutes que posaient un certain nombre de dépenses qui semblaient peut-être pas justifiées.
Alors donc, ils ont trouvé, ils ont identifié 11 millions qui leur semblent injustifiés, qui leur sembleraient injustifiés. Parmi ces 11 millions, alors il y a des choses dont on a déjà parlé, il y a des contrats de consultants, et puis il y a ces vols, ces fameux 38 vols. Alors en quoi ces 38 vols posent question ?
Les auditeurs ont relevé qu'un certain nombre de ces trajets, de ces vols en avion, n'était peut-être pas compatible avec l'agenda professionnel de Carlos Ghosn.
Alors on parle là de vols qui ont eu lieu entre 2015 et 2018. Ça porte sur une somme de 5 millions d'euros. Et alors ce qui surprend, ou en tout cas ce qui questionne, c'est que souvent cet avion, ce jet, atterrit dans des endroits où on se rend compte que Carlos Ghosn est en vacances et sa famille est dans le coin.
Ben voilà, parce que les auditeurs, en fait, ils sont mués un petit peu en enquêteurs. Ils sont allés sur les réseaux sociaux, ils ont constaté que, par exemple sur Instagram, une partie de la famille de Carlos Ghosn postait un certain nombre de photos, notamment pendant les périodes de vacances. Ils ont comparé avec les trajets effectués par les jets de Nissan, et ils se sont rendus compte que au moment où la famille postait des photos de vacances, l'avion du groupe se posait pas loin. Donc, il pose la question, est-ce que l'avion de Nissan et de Renault a été utilisé pour emmener le PDG en vacances, tout simplement, ou en week-end d'ailleurs, parfois.
C'est une vraie enquête policière avec des moyens numériques. Là, on est loin de l'audit comptable classique où on regarde les comptes, on les analyse.
Et oui, ils ont regardé tout ce qu'ils pouvaient, en fait. Ils ont regardé l'agenda professionnel de leur ancien président, ils ont regardé les réseaux sociaux. Ils ont même retrouvé des traces de présence du bateau de la famille. Le yacht qui est contrôlé par une société dans un paradis offshore, où Madame Ghosn apparaît et dont on présume aujourd'hui que de l'argent de Nissan aurait pu être utilisé pour le financer. Pour le moment, c'est au stade de l'enquête, il n'y a rien de prouvé. En tout cas, ce fameux yacht parfois mouille dans des ports qui sont pas loin d'aéroports où s'est posé l'avion du groupe.
Oui, l'avion atterrit là où le yacht se trouve. Et alors, on a des destinations type Ibiza, Minorque, Palma, chaque fois des lieux qui ressemblent plus à des lieux de vacances qu'à des lieux de réunions professionnelles autour de l'automobile.
Ben voilà, on a un certain nombre de stations balnéaires, très belles, très chiques, avec de très belles plages. On a des stations de ski aux États-Unis aussi, où Mazars s'est rendu compte que l'avion du groupe s'était posé non loin de la station de ski où l'une des filles de Carlos Ghosn passait ses vacances, et les dates coïncident, ou semblent coïncider. Donc c'est aussi un vol peut-être qui a servi à des fins personnelles. Il y a aussi une île japonaise très courue où s'est mariée une autre fille de Carlos Ghosn, et on voit au même moment que l'avion du groupe se pose à l'aéroport voisin en juillet 2018. Donc les auditeurs se demandent aussi si l'avion n'a pas été utilisé pour des fins tout à fait privées.
Il y a une autre destination aussi, c'est au moment où son fils se fait remettre son diplôme aux États-Unis, l'avion atterrit aussi à proximité.
Ben voilà, son fils Anthony se fait remettre un diplôme à Stanford. Effectivement, l'avion se pose à San Francisco, donc tout près, alors que sur l'agenda professionnel du président d'alors, il n'y avait pas de rendez-vous ou d'obligation pour lui d'être là-bas. Les vols ont parfois transporté, ont souvent transporté sa femme et des membres de sa famille. Parfois même des membres de sa famille sans lui.
Il y a aussi la question de Beyrouth. Il atterrit souvent à Beyrouth. Alors là, il y a discussion autour de ça, mais le cabinet Mazars considère que Beyrouth n'est pas une destination à but forcément professionnel.
Voilà, il considère que Beyrouth n'est pas un lieu où l'empreinte du groupe Renault-Nissan est suffisante. Ils disent l'empreinte est limitée.
Ben, il a un domicile
donc,
là-bas.
Il a un domicile, mais il n'a pas de bureau sur place. Et ça pose question aux auditeurs, d'autant plus qu'il est visiblement, pour des questions de sécurité, il est difficile de laisser l'avion en parking à Beyrouth. Il faut ensuite le transporter à Larnaca. Donc ça coûte encore plus cher. Non seulement il doit aller à Beyrouth déposer Carlos Ghosn parce qu'il y habite, mais en plus, l'avion doit repartir à Larnaca, à Chypre. À vide et revenir pour passer
pour le chercher, le ramener au Japon ou ailleurs,
voilà,
quoi.
Pour l'emmener ailleurs.
Vous avez interrogé Carlos Ghosn sur ses voyages?
Alors, on a posé la question à ses porte-paroles qui n'ont pas répondu.
Oui, c'est-à-dire, c'est même pas, on veut pas vous répondre, c'est aucune réponse.
Aucune réponse.
Silence, c'est ce qu'on appelle un silence radio.
C'est un silence radio, oui.
Bien, merci Laurent Léger. Alors, je précise, je rappelle que votre papier, on peut le lire si on le souhaite sur l'express.fr. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Sonia Leglen cette semaine. La programmation musicale était, elle, signée Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique, il y avait Loïc Frapsos et Clément Vuillet. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad recevra Didier Decoin, le nouveau président du Prix Goncourt. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.